sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission des chômeurs et des précaires.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Alors ce soir, vous êtes avec l'insupportable Gilles, l'incroyable Ludo, l'impertinent Christophe et Claude, bien sûr, toujours au son.
Donc, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Nous voilà. Ne ferons qu'un commentaire sur les objectifs.
Voilà. Donc, ce soir, c'est une émission qui va prendre une grande partie, qui va parler d'Italie, puisque, effectivement, plan d'austérité en Europe oblige. Nous parlons donc de l'Italie et de la réforme du marché du travail en Italie, mais également des femmes de ménage qui ont fait grève et qui ont gagné leur bataille. Ça, c'est une victoire pour eux, pour elles et pour nous aussi, puisque nous les soutenons, bien sûr. Également, en fin d'émission, des plans sociaux en France en particulier. Donc, on va commencer par les femmes de ménage et les personnels des hôtels de Suresnes qui étaient en grève et qui ont gagné donc devant les prud'hommes. Et elles ont été réintégrées, toutes réintégrées. Elles ont gagné sur tout ce qu'elles avaient demandé. Donc, elles ont 100 euros de plus sur leur salaire, la moitié des jours de grève payés par leur employeur. Il n'y a eu donc aucun licenciement. Donc, on va écouter un petit peu ce qu'on en dit des syndicalistes qui étaient sur place.
Un matin, il y a quelqu'un qui passe devant notre poteau de grève avec un chien qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Le chien n'a pas beaucoup aboyé, mais il a aboyé un peu. Parce que face à des gens de couleurs différentes, le chien s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma rue est envahie. Le propriétaire du chien nous a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On a expliqué au propriétaire du chien que nous sommes en grève. Le propriétaire du chien nous a dit, mais c'est... non, c'est... ça ne peut pas se passer. J'appelle Jacqueline. Je me suis dit dans mon cœur, mais Jacqueline, c'est qui? Et comme je vous dis vraiment, je tenais à le dire ici, il est là, Gérard, c'est lui le propriétaire du chien. Qui immédiatement a appelé la députée, et je crois deux à trois jours plus tard,
c'est pas le
la
chien
députée
qui
était présente sur le lieu de la grève. Et je peux vous assurer, étant en interne, en interface, en discutant en permanence avec la direction dans les couloirs, ça, même comme la direction a refusé de recevoir Madame la députée, mais le directeur m'a vu, m'a demandé, mais Raphaël, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi vous amenez ces gens-là ici? On pouvait régler cette histoire entre nous. Mais non, on a épuisé toutes les voies de moyens de négociation pacifique, de dialogue. Si nous sommes arrivés à la grève, c'est parce qu'il y a eu échec du dialogue. C'est parce qu'on n'a pas reçu, nous, on n'a pas entendu les doléances de ces femmes. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Et par exemple, je tenais aussi à remercier Paul qui a fait une lettre. Elle est partie pour remettre cette lettre à la direction qui ne l'a pas reçue. Donc nous étions en face, nous avions en face de nous une direction qui ne voulait pas le dialogue. Mais face à la détermination des femmes de chambre, des élus, et face aussi vraiment aux élus politiques. Parce que il y a un journaliste qui est passé, qui nous a dit « Mais finalement, votre lutte est en train de prendre une dimension nationale. » Et c'est vrai, si cette lutte a pris cette dimension, c'est grâce aux élus. Vraiment, je tenais à le dire ici, que simplement les gens, la direction, croyaient voir en face d'elle des africaines illettrées qui ne savent ni lire ni écrire, soutenues par des élus d'origine africaine. Mais là, on a vu cette cohésion sociale au-delà des races, au-delà des origines. On a vu des élus, madame la députée qui a laissé ses occupations, Paul qui était là en permanence, Rodolphe. Vraiment, on a vu cette France-là qu'on aime, qu'on a toujours connue, cette France des droits de l'homme qui disparaissait. Mais je disais au peuple de France, mais faites attention, la France est en train de disparaître. C'est pas cette France qu'on a toujours connue, c'est pas cette France généreuse, c'est pas cette France qui a toujours été là auprès des faibles, auprès de ceux-là qui étaient détruits, humiliés. Donc vraiment, je tenais à le dire que nous avons été contents de retrouver cette France que nos grands-parents ont connue, cette France qui est là pour défendre les faibles, cette France qui a été là pour soutenir cette femme. Parce que si on a reçu, c'est parce que derrière, la direction a su qu'on avait un poids politique qui nous soutenait. La direction a su qu'il y avait un syndicat qui nous soutenait. Donc vraiment, je tenais à vous dire merci et je tenais aussi à remercier le chien.
Alors, le 7 mars 2002, plusieurs femmes de chambre d'origine africaine employées par la société de nettoyage Arcade pour travailler dans les hôtels du groupe Accor se mettaient en grève avec leur syndicat Sud pour obtenir l'arrêt du paiement de leur salaire à la chambre et non à l'heure, l'amélioration de leurs conditions de travail par la baisse des cadences et leur embauche en direct par le groupe Accor. Au bout d'un mois de conflit, au mois d'avril 2002, plusieurs d'entre elles seront licenciées pour faute lourde. Ces femmes exemplaires refuseront de baisser la tête. Après 14 mois de lutte, elles seront réintégrées et obligeront le groupe Accor à élaborer une charte nationale pour la sous-traitance et à embaucher directement dans plusieurs hôtels les femmes et valets de chambre de la société sous-traitante Arcade. 10 ans plus tard, le 20 mars 2012, comme pour fêter un anniversaire, les salariés de DECA France ont décidé avec une partie de leurs collègues embauchés directement par Louvre-Hôtel de cesser le travail à 100% aux campagnes les premières classes du pont de Suresnes pour quasiment les mêmes revendications. Au bout du 28e jour de grève, le 17 avril 2012 au soir, le deuxième groupe hôtelier au niveau national, la société Louvre-Hôtel, a craqué. Les grévistes de DECA France ont obtenu la fin du travail à la chambre avec la mise en place d'une pointeuse pour un paiement à l'heure et la diminution des cadences indicatives de 25%. Une augmentation de leur mensualisation garantie chaque mois, qui était antérieurement de 26 heures, 104 heures ou 108 heures 33, à 120 heures et 130 heures par mois. Le passage également de la troisième gouvernante qui était à temps partiel à temps complet. Elles ont obtenu également une revalorisation de près de 100 euros de leur salaire mensuel, sans compter l'incidence d'un paiement à l'heure et pas d'un paiement à la chambre, puisque rien que sur ce système-là, on avait de nombreuses heures de travail qui n'étaient pas payées. Plus 24 à 26 euros sur le salaire de base par l'augmentation de leur qualification, plus 56 à plus 88 euros de prime de panier, 11 euros de frais d'entretien des tenues. Elles ont également obtenu, ce qui n'est pas un mince succès, la suppression de la clause de mobilité. Il faut savoir que dans les entreprises de nettoyage, c'est un outil dont se sert régulièrement le patronat pour licencier des salariés en les satellisant un petit peu partout en région parisienne, de préférence loin de leur domicile, de façon à ce que soit elles démissionnent, soit elles soient licenciées pour faute grave. Le paiement de 50% des jours de grève a également été obtenu, les autres 50% étant récupérés. Les salariés de Louvre-Hôtel, de leur côté, ne sont pas restés en reste, avec des repositionnements à la hausse de leur classification dans les grilles de salaire des hôtels, cafés, restaurants, qui se traduisent par des augmentations de 60 à 100 euros par mois, des augmentations de leur mensualisation de 120 heures à 169 heures pour deux d'entre eux et de 120 heures à 130 heures pour quatre autres salariés en grève. Le même régime leur a été appliqué pour les jours de grève, à savoir 50% des jours de grève payés, 50% à récupérer. On a actuellement un petit problème avec la direction, mais qui s'est engagé à régulariser les 50% qui avaient été retirés ces jours prochains. Nous avons été plusieurs qui ont soutenu les deux conflits, celui d'Arcade il y a 10 ans et celui de DECA France et de Louvre-Hôtel il y a quelques semaines, à trouver dans cette grève la même détermination que celle des collègues d'Arcade il y a 10 ans. La lutte des salariés d'Arcade plane sur le patronat hôtelier qui craint ce type de révolte. Sans cette lutte de 2002, il faut le dire, nous serions peut-être aujourd'hui toujours en grève. Mais avec ce conflit, une étape supplémentaire a été franchie, puisque pour la première fois, notre syndicat CGT-HPE, épaulé par le syndicat CNT du nettoyage région parisienne, a pu unir dans une même action les femmes de chambre et les gouvernantes de la sous-traitance, ainsi que plusieurs salariés embauchés directement chez Louvre-Hôtel. C'est aussi cette unité qui a contraint Louvre-Hôtel à céder aussi rapidement quand on connaît la durée prévisible de ce type de conflit. 14 mois chez Arcade, je vous le rappelle. Pour ne pas oublier la grève des Arcades, qui ont marqué vraiment un point de départ aux luttes des femmes de chambre de la sous-traitance dans l'hôtellerie, notre syndicat a décidé d'offrir aux grévistes le CD du film « Remue-ménage dans la sous-traitance » réalisé de 2002 à 2004 par Ivora Suzac du collectif 360 degrés et même plus. Nous tenons aussi bien évidemment ici à remercier tous les soutiens, les habitants de Suresnes, les partis politiques, le Parti communiste français particulièrement, le parti de gauche, les députés, Jacqueline Fraisse-Canalys qui est encore aujourd'hui parmi nous, qui effectivement nous ont soutenus dans ce conflit et nous ont permis d'obtenir satisfaction. Donc nous allons remettre aux camarades grévistes ce CD d'un film de lutte également dans la sous-traitance qui s'est paillassé maintenant il y a 10 ans de cela, et on pourra plus tard, lors d'une prochaine de nos réunions, en discuter si vous le souhaitez.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pour toujours debout les anarchistes.
Et oui, c'était Jacques Delgeyer qui chantait Les Anarchistes, une chanson de Léo Ferré, très belle chanson bien sûr.
C'est très émouvant.
C'est très émouvant, absolument. D'autant qu'ils sont encore debout et nous sommes toujours debout, nous aussi, qui sommes également anarchistes quelque part, non ?
Pas quelque part, c'est toujours ailleurs.
Voilà, c'est exact. Voilà. Donc, juste une chose pour...
Si tu pouvais parler droit dans le micro.
Ce serait mieux quand même, Christophe, parce que là, tu l'as joué au MP, ça pas du tout. Donc...
Oui, bah, je disais donc que quelque part, c'est toujours ailleurs.
Voilà. Donc, juste pour revenir, donc c'est un message de notre technicien. Je vais le dire en micro parce que c'était drôle. Voilà, 14 mois de grève pour obtenir un CD à la fin, c'est quand même pas mal.
Vive la
lutte. Non, restons sérieux. On va parler maintenant, bien sûr, des plans sociaux. De l'Italie, parce que effectivement, les plans d'austérité en Europe sont nombreux. Tous les pays sont touchés. Plus les pays du Sud que les pays du Nord, ça va de soi. Bien que l'Irlande aussi, on en a déjà parlé. Mais effectivement, en Italie, la réforme du marché du travail est en train de se faire, plus ou moins. Dis-moi, Ludo, un petit peu ce qu'il en est. Et...
Non, bah, c'est-à-dire qu'elle a eu... en fait, elle a eu lieu il y a quelques mois par c'était la réforme de Mario Monti, qui est voilà, le premier ministre par intérim, on a envie de dire, de l'Italie, grand technicien de Goldman Sachs. D'ailleurs, il faut rappeler que tout le gouvernement, donc présenté comme un gouvernement de techniciens, sont en fait des dirigeants des grandes entreprises italiennes. Voilà, qui se retrouvaient leur poste un peu comme aux États-Unis.
Le cas de 40 dans l'intérêt de la France.
Enfin voilà, donc le cas dans l'intérêt de l'Italie. Et en fait, l'émission qui a été réalisée, bon, nous on en parle parce que c'est comme on fait notre petit tour d'Europe de ce qui se passe, voilà, de la casse sociale, hein, de la crise, d'avant la crise. Donc voilà, puisqu'on a déjà fait l'Allemagne et l'Angleterre et la Grèce, bah, on va poursuivre par l'Italie et après ce sera l'Espagne. Et là, l'émission Envie d'Italie, qui est sur FPP, donc le premier lundi du mois, de chaque mois, et donc qui est fait par des Italiens, a consacré toute son émission, son heure et demie d'émission, sur la réforme du marché du travail en Italie. Et donc bah, ça tombe bien, puisque c'est exactement de ça qu'on voulait parler. Donc c'est un extrait donc de l'émission Vie d'Italie, et donc vous allez entendre la voix de Veronica et de Daniela.
Ce soir, on va vous parler de la nouvelle réforme du marché du travail voulue par le président du Conseil italien Mario Monti et par Elsa Fornero, la ministre des Affaires sociales. Elle représente la dernière étape d'un parcours de dérégulation du marché du travail commencé désormais il y a 20 ans en Italie. Un long parcours dont on a peut-être perdu le fil, mais dont les effets sont sous nos yeux tous les jours. Les vagues explications trouvées dans les journaux français nous ont donné envie de vous raconter, si ce n'est la vraie histoire de cette réforme, du moins d'ouvrir des nouvelles pistes d'approfondissement et de réflexion. Mais tout d'abord, quelle était la situation avant cette énième réforme, Daniela ?
En effet, avec son armée de travailleurs précaires, prêts à tout pour décrocher le moindre contrat, le marché du travail italien est probablement le plus concurrentiel en Europe. De manière générale, dans l'Union européenne, 40% des jeunes de moins de 25 ans doivent se contenter d'un contrat temporaire. Mais en Italie, c'est encore pire, parce que cette situation de précarité ne touche pas uniquement les jeunes et les femmes, bien que ce soit les premières victimes de la maudite flexicurité, comme on dit en empruntant le terme de l'anglais flexicurity. mais également les moins jeunes. Pour un très grand nombre d'Italiens, les jobs temporaires deviennent paradoxalement des précarités stables, des périodes d'essai à outrance. Aujourd'hui, on compte environ 47 types différents de contrats précaires, résultat des réformes du travail commencées dans les années 90. Les employeurs privés ont su bien évidemment profiter de cette situation, mais l'État aussi, au point que même le secteur public est envahi de travailleurs soi-disant atypiques, devenus désormais très typiques malheureusement. Donc en Italie, derrière ces contrats de collaborateurs indépendants se cachent des relations de travail de type subordonné.
Alors pourquoi ces contrats manquent ?
Et bah, vous l'aurez deviné, ces faux clients, ou mieux ces employeurs de faux indépendants, ne payent pas de charges sociales, n'étant pas responsables des personnes qui travaillent pour eux. Ce sont en fait les travailleurs qui se chargent de payer les impôts, l'assurance maladie, les cotisations chômage, etc. C'est donc sur eux qui pèse le risque incombant normalement à l'entreprise. De surcroît, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection qui est normalement offerte aux employés, salaire minimum, congé maladie, 13e mois, prime de vacances, retraite, congés payés, droits syndicaux de base en matière de formation, d'égalité des chances ou de droits de grève.
Aujourd'hui, l'aspect le plus critiqué de la réforme du travail de Monti, c'est la mise en cause de l'article 18 du Code du travail qui concerne les travailleurs salariés. On va aborder tout de suite cet aspect de la réforme avec le délégué syndical de la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes de la ville de Cuneo, Giacomo De Vizia. Mais il ne faut pas oublier les autres dangers de cette réforme et notamment en ce qui concerne l'armée des travailleurs indépendants atypiques. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de l'émission, nous en parlerons avec le porte-parole du mouvement Il Quinto Stato, le cinquième État, qui vient de se créer et qui s'est réuni pour la première fois à Rome le samedi 5 mai.
Et bah pour commencer, nous vous proposons donc l'interview de Giacomo De Vizia, délégué syndical de la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes de la ville de Cuneo, qui va nous éclairer sur l'article 18 et sa réforme.
Allora, Giacomo, tu sei segretario generale della Federazione Italiana dei Ouvriers Métallurgistes de la Ville de Cuneo depuis 2002. Tu t'occupes de 22 usines. Tu as travaillé 15 ans dans une usine avant de devenir syndicaliste de la firme. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé pour les ouvriers métallurgiques. Il suffit de donner quelques chiffres et de parler de la Fiat que tout le monde connaît. À la fin des années 70, à Mirafiori, on comptait 60 000 salariés. Aujourd'hui, il n'y en a que 15 000 dont la moitié ne travaille pas pour la Fiat, mais pour Powertrain. Et ces chiffres montrent bien les changements qu'il y a eu.
Mirafiori est une città nella città.
Mirafiori est désormais une ville fantôme, un désert.
Lavorano, eccetera, ma e confronto quello che ha trovato mio padre desertificata.
Il est clair que lorsqu'on parle des emplois perdus en Fiat, il faut multiplier par 4.
Sempre moltiplicare di 4 perché c'è un indotto.
Parce qu'il faut considérer que chaque poste de travail en induit 4 autres. L'induit économique lié au marché de la voiture est très important.
La Fiat a caratterizzato tanto della storia del movimento operaio nel bene e nel male qui in Italia. Ha caratterizzato non solo la storia del movimento operaio, ma la storia stessa della società e del sociale. Perciò sono cambiate tantissime cose.
Une classe ouvrière numériquement faible, fragmentée, beaucoup plus fragile. Souvent sans mémoire historique et en réelle difficulté.
Un lavoro molto molto preciso sulla cancellazione della memoria e in vera difficoltà perché oltretutto mentre ti sto parlando come voi saprete.
Car comme vous le savez, nous vivons depuis 2 ans une grave crise économique et personne ne sait quand elle prendra fin.
Più di 2 anni fa e che non si sa quando finirà e questa è stata tutta pagata.
Et cette crise a été payée par tous les travailleurs, non seulement par la classe ouvrière traditionnelle.
Tutti i lavoratori.
Io ti volevo, continuando su questo tipo di discorso, sappiamo adesso nell'attualità che in Italia...
Il governo Monti parle di riformare l'articolo 18. Qu'en pensez-vous de toute cette situation?
L'articolo 18, volevo sapere un po' tu cosa ne pensavi di questa situazione.
Ma la domanda che mi fai io credo che debba darti una risposta prima di carattere generale e poi di carattere particolare.
A cette question, allora, je dois te répondre d'abord d'une façon générale et ensuite particulière. En Italie, on a trouvé la quadrature du cercle du rêve du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas une position au Parlement et on a un gouvernement qui est démocratiquement extrêmement discutable, étant donné que ce gouvernement n'a pas été élu par les Italiens. Toute cette situation est le résultat d'une opération pas très propre faite par le président de la République. Le gouvernement Monti, ce n'est pas un gouvernement technique. Ça, c'est l'énième mensonge vendu aux Italiens pour leur faire oublier la misère de la politique italienne qui dure désormais depuis des années. Ce gouvernement fait de la politique et fait une politique des classes. C'est un gouvernement qui fait la lutte des classes. C'est un gouvernement qui est en train de mettre en place des contre-réformes, car elle n'améliore pas les conditions des gens. Au contraire, elle les détériore. Donc, elles sont des contre-réformes. Tout ça est fait d'une façon unilatérale contre les personnes qui travaillent et pas seulement. Dans ce panorama, car nous vivons dans une phase qui a une transition vers quelque chose que je ne sais pas comment définir, car ce n'est plus une démocratie. Moi, je l'appelle la détocratie, mais je ne sais pas si cela c'est le terme le plus correct. En tout cas, nous vivons sur la menace de ce couperet qui n'est même plus national mais international, représenté par la Banque européenne, par le FMI, par tout ce qui cette crise l'ont créé, généré. En donnant naissance à un système de développement erroné qui nous terrorise.
Terrorizzando la popolazione.
En son nom, ils sont en train de faire les pires des choses. Dans ce cadre international, il y a en effet la réforme du travail en Italie. Cette réforme est en réalité commencée avant, avec la réforme des retraites, la pire des réformes. Aucun pays en Europe a su faire mieux. Les gens vont partir à la retraite à 70 ans, en certains cas même plus tard, 72. Imaginons-nous des travailleurs qui effectuent des tâches difficiles et épuisantes comme dans les fonderies et les aciéries. C'est une vraie condamnation à mort pour ces gens-là. Sans compter le montant des retraites qui sera ridicule, on part du 40% du dernier salaire, quand on sait très bien qu'en Italie, nous avons des salaires de misère. Peut-être seulement la Grèce fait pire que nous. On part d'un pays qui a le plus grand nombre de travailleurs précaires et où le taux de chômage parmi les jeunes arrive au 30% ou peut-être plus. On part d'un pays qui s'appauvrit de plus en plus et qui a un des taux d'imposition le plus élevé en Europe. Toute cette situation devrait donner envie à tous de se rebeller. La réforme du travail voulue par le gouvernement Monti s'inscrit donc dans ce contexte. Avant de parler de l'article 18, je tenais à dire que si nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de tous les gouvernements précédents qui ont bien préparé le terrain à ces désastres.
Qui hanno preparato il terreno a queste a questi disastri. Però detto questo, l'articolo 18 è uno dei
l'articolo 18 è una delle dernière conquêtes des travailleurs obtenues dans les années 70 comme résultat d'une série de luttes menées par les travailleurs et les étudiants italiens entre 1968 et 1970, grâce à des millions d'heures de grève. Statut des travailleurs, où on trouve l'article 15, qui dit que l'on ne peut pas licencier une personne de façon discriminatoire, c'est-à-dire en raison de ses opinions politiques, de son sexe, de sa race, de sa religion, etc. En Italie, tous les jours on licencie, on fait face à un nombre effrayant de licenciements. Mais on ne peut pas encore licencier d'une façon discriminatoire. Si on le fait, on va devant un juge. Et si le juge donne raison au travailleur, l'employeur est obligé de les réintégrer. Donc cette réforme veut modifier l'article 18 de ce statut qui prévoit la réintégration du salarié dans tous les cas de licenciement sans juste cause. Ils veulent monétiser un droit parce que pour eux, tout se réduit à ça finalement, à une question d'argent. Car comme disait un vieux patron de Confindustria, je voudrais avoir un pistolet quand je me promène dans mon usine, mais je ne l'utiliserai pas. Mais je voudrais que les travailleurs le voient. Tu comprends? Un pistolet qu'on peut garder pointé sur les travailleurs afin qu'ils n'aient même pas l'idée de lever la tête contre lui.
Capisce? Così, una pistola da poter tenere puntata al lavoratore che non esista nemmeno più la remota possibilità che il lavoratore possa alzare la testa.
Ça, c'est la résolution de l'article 18. Et qu'est-ce que tu fais à Cuneo? Vous êtes en train de vous organiser?
Appunto a Cuneo, rispetto a cosa fate, vi organizzate?
No, noi stiamo facendo una serie di.
Depuis un moment, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous avons organisé des grèves au niveau local, régional et national à travers toutes les formes qu'on peut utiliser.
Sia a carattere locale e regionale, con blocchi stradali, con tutte quelle forme che. Diciamo, come organizzazione possiamo mettere in campo.
Malheureusement, notre problème est le fait d'être seul.
Anche il fatto di essere abbastanza soli.
Et cela est très grave en ce moment. Car si on était soutenu par la Confédération nationale,
dalla Confederazione in maniera seria,
on pourrait créer d'autres difficultés.
Sicuramente avremmo potuto creare altre difficoltà.
Tandis que la Confédération, à cause de ses liens politiques qu'elle a toujours eu et qu'elle continue à garder, elle hésite beaucoup. Tu es donc pessimiste à cet égard. Franchement, moi, je cherche d'être le plus réaliste possible. C'est clair que la réalité qu'on vit aujourd'hui me dit que l'un des plus grands syndicats d'Europe, la CGIL, elle n'a même pas assuré les 20% des possibilités de mobilisation pour défendre l'un des derniers conquêtes des travailleurs. Cela, c'est évident. De plus, la CGIL est soumise de façon honteuse à ces gouvernements, car en agissant comme ça, elle viole les statuts du syndicat qui promeut l'autonomie des gouvernements.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, et vous écoutez Envie d'Italie, magazine radio d'actualité politique, sociale et culturelle.
Roberto Ciccarelli, tu es un des représentants du mouvement appelé le cinquième État, il Quinto Stato. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre rassemblement, pourrais-tu nous faire un point sur la réforme du travail menée tout récemment par le gouvernement Monti, qui en seulement 3 mois a changé le système social et du travail en Italie?
Il s'agit en fait de 2 réformes.
Le gouvernement Monti veut se placer à l'avant-garde des gouvernements européens qui pensent que la crise de la dette puisse être réglée en modifiant le système social et celui de la réglementation du travail.
L'impact
de ces 2 réformes sera très dur pour tous, mais les plus pénalisés seront les travailleurs dépendants.
I soggetti più colpiti sono sicuramente i lavoratori dipendenti che da anni
déjà penalizzati depuis des années par les salaires les plus bas d'Europe,
più bassi d'Europa.
Mais surtout, cela va être très difficile pour les travailleurs précaires, autonomes, indépendants, car en Italie, cette branche de travailleurs n'est protégée par aucune forme de protection sociale, par exemple le salaire, les périodes de maladie ou d'accident du travail, et l'espoir d'avoir droit à une retraite équitable.
La tutela della malattia per gli infortuni, la speranza di percepire.
Il faut savoir que de cette réforme sont exclus 6 millions de personnes, c'est-à-dire 1/3 de la force de travail active en Italie, représentée justement par les travailleurs indépendants et précaires. En Italie, il y a un système très particulier qui concerne une partie des travailleurs indépendants et que l'on appelle la gestion séparée de l'INPS. L'INPS étant la sécurité sociale italienne pour les retraites et la vieillesse. Ils sont obligés de s'inscrire à la gestion séparée de l'INPS, tous ceux qui travaillent de façon indépendante en tant qu'auto-entrepreneurs et avec des contrats de collaboration temporaire. La gestion séparée de l'INPS est l'institut de sécurité sociale en Europe le plus actif, dans le sens que depuis 15 ans, il a un bilan actif d'environ 9 millions d'euros par an.
La particolare riforma della previdenza che è fatta nel 1996.
Mais depuis la réforme du ministre Dini de 1996, cet argent cotisé par le travail des travailleurs indépendants tout au long de leur vie n'est plus restitué équitablement à la fin de leur carrière.
Molto ampio dei collaboratori precari intermittenti, la restituzione equa di quanto versato, dei contributi versati durante il lavoro.
Cette somme énorme d'argent est utilisée pour d'autres exigences et notamment pour payer le chômage de milliers, voire millions de personnes dont le nombre n'a fait qu'augmenter depuis la crise de 2007.
Per pagare le ore di disoccupazione che, come nel resto d'Europa, dal 2007 ad oggi sono esplose.
Questi soldi che sono utilizzati per pagare la.
Cet argent qui est utilisé pour payer le chômage technique d'un grand nombre de travailleurs en Italie fonctionne aussi comme un déterrent social.
È un modo in cui il legislatore.
Oui, tout à fait. Depuis 20 ans, c'était une manière pour l'État et pour les institutions qui doivent protéger les travailleurs de poser les bases d'un antagonisme entre les travailleurs dépendants et les travailleurs indépendants, entre les travailleurs subordonnés et les travailleurs précaires. À ce propos, peux-tu nous expliquer ce que c'est le Quinto Stato, le cinquième État, comment et quand il est né et qu'est-ce que vous vous proposez de construire ensemble ?
Primo luogo, dare una rappresentazione di un mondo.
C'est avant tout une volonté de donner une représentation politique, médiatique et conceptuelle d'une énorme partie du monde du travail. Comme je le disais, de un tiers des travailleurs italiens, qui n'est pas reconnu par l'État ni par les institutions qui devraient protéger leurs droits fondamentaux, les syndicats.
So che in Francia può sembrare.
Je sais qu'en France cela peut paraître absurde ou même exotique d'imaginer qu'un tiers des citoyens italiens, sans compter les migrants, n'ont pas accès aux droits garantis par la citoyenneté dans la Constitution italienne.
Della cittadinanza sociale costituzionale, la cittadinanza garantita dalla Costituzione italiana, può sembrare strano, ma è purtroppo la dolorosa verità.
Cela peut paraître bizarre, mais c'est malheureusement la dure vérité.
Questo universo.
Et il faut dire che questo universo dont on parle représente le futur du travail et de la société en Italie, comme partout en Europe.
Universo che vive e lavora al di fuori.
C'est un univers qui vit et travaille en dehors du monde de la production et du travail construit autour du concept du contrat à durée indéterminée. Mais si c'est ça le futur, et ce n'est pas moi à le dire, ce sont les statistiques qui prévoient après 2020 un retour de la croissance, une croissance qui n'impliquera pas de forme de travail stable. Cela veut dire que la manière de vivre et de travailler de millions de personnes aujourd'hui en Italie sera la règle. Cela représentera la majorité de la population. Notre pays se dirige vers ce futur d'une manière totalement inconsciente et sans prendre conscience ni vouloir comprendre ce que cette transformation va amener.
Che non avverrà però fra 10 anni, è già avvenuta 20 anni fa.
Transformation qui est déjà en cours depuis 20 ans, depuis le début des années 90.
La politica e l'amministrazione non solo.
Les syndicats, la politique et l'administration non seulement n'en prennent pas acte, mais ils ont occulté et nié cette réalité qui est dramatique aujourd'hui, mais tout de même prometteuse pour le futur. Il Quinto Stato, le cinquième État, est une plateforme qui ressemble des réseaux, des mouvements, des associations professionnelles, citoyennes, sociales. Avec il Quinto Stato, nous souhaitons de façon coopérative donner une visibilité à cette réalité qui est structurelle et le sera de plus en plus pour les prochaines générations. Nous souhaitons faire une ample activité de sensibilisation, de coordination et de réflexion autour d'une forme de vie qui sera à la hauteur du futur qui nous attend.
È interessante perché qui in Francia c'è un...
Ici en France, il existe un statut spécifique pour les travailleurs intermittents, mais qui ne concerne que les travailleurs du monde du spectacle, le cinéma, la danse, le théâtre. De votre côté, il me semble que vous ayez un regard bien plus ample qui concerne aussi la photographie, le journalisme, les métiers de la transmission. Peux-tu nous donner la définition de ce que vous appelez le tertiaire avancé et des secteurs d'activité concernés par vos revendications?
Allora, due cose. Terziario avanzato.
Le tertiaire avancé représente la totalité des métiers liés à la connaissance.
Dall'intera gamma del lavoro della conoscenza. Una parte delle professioni tu le hai nominate.
Il y a toutes les professions que tu viens de nommer, et nous y incluons aussi toute l'économie des services. Aussi bien les services au privé qu'au public. Et aux individus. Nous incluons aussi la formation et la recherche.
Alla formazione, alla ricerca. Terziario avanzato si intende la grande trasformazione avvenuta.
Par tertiaire avancé, on entend la grande transformation qui a eu lieu depuis les années 70 dans tout le monde occidental capitaliste et dans les pays emergents.
Al Canada, ai paesi emergenti, in cui la produzione industriale
pays où la production industrielle, qui est pourtant encore solide et représente la première forme de travail, a été accompagnée par une transformation des services à la production et à la population.
À la production, mais comme dicevo, à la cittadinanza in quanto tale.
Et oui, voilà, donc on remercie quand même, cela va de soi, les animatrices de Envie d'Italie de nous avoir prêté leur son. Merci à toutes de l'avoir fait, en tout cas.
Et je précise qu'on peut retrouver l'émission en intégralité, hein, qui est d'une heure et demie, sur le site de rfpp.net. Et vous tapez à émission Envie d'Italie et vous trouvez l'adresse enfin, du site de leur émission que vous pouvez réécouter.
Voilà, très bien. Donc, merci à elles de nous avoir prêté leur son. Très bien. Donc, vous êtes toujours sur Mode d'emploi, bien sûr, l'émission des chômeurs et précaires, sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'émission des chômeurs et précaires. Et maintenant, nous allons parler des plans sociaux parce qu'effectivement, il y a une liste noire de 46 entreprises françaises qui vont, dans les mois qui viennent, je crois, Ludo va me confirmer ça, vont licencier une partie de leur personnel. C'est donc 45 000 emplois qui sont menacés dans tous les secteurs, donc textile, automobile, énergie, industrie, transport, commerce, etc. etc. Donc, qu'en est-il exactement aujourd'hui de ce plan de licenciement qui touche tous les secteurs, Ludo ?
Eh bien, écoute, il semblerait que le gouvernement précédent ait en sous-main retardé ou demandé à ses amis, patrons, de retarder les plans sociaux pour l'après-présidentielle pour éviter que voilà, ça ne dégrade ou que ça ne rende que ça rende
les élections un peu compliquées pour les...
Voilà, compliquées pour le candidat sortant, tout le monde l'aura compris. Non, mais j'allais dire la déculottée que s'est pris le candidat sortant encore plus, ou le bilan du président, qu'on puisse voir de façon encore plus criante le bilan du président sortant. Donc, le gouvernement qui arrive se tape une liste, apparemment a listé 36 entreprises qui sont en difficulté. Et
moi, j'en ai lu 46, alors c'était pas le même texte, mais
en gros, il était urgent d'attendre pour mieux accélérer à la rentrée.
Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la CGT qui a listé à peu près le nombre d'emplois menacés, donc 45 000, ce qui comprend en fait non seulement les salariés dans les entreprises, mais aussi ce qu'on appelle les coûts indirects. Donc, pour prendre un exemple, quand on va dire une industrie automobile comme PSA vire ou ferme un site, c'est tous les équipementiers aux alentours qui sont affectés. Voilà. Et donc c'est un chiffre que Monsieur Montebourg, qui est notre ministre de l'économie, du redressement productif trouve tout à fait crédible. Donc voilà, donc c'est pas des blagues. Et donc effectivement c'est dans tous les secteurs.
Marchand,
donc pour vous marchands ou non marchands, même les services sont concernés. Mm-hmm. Donc pour vous donner une petite idée, donc il y a le textile avec Merrill Fiber qui est pas très connu, hein, qui est un fabricant de fibres synthétiques. Ça fait 300 343 salariés, l'automobile avec PSA, qui est déjà engagé dans un plan de 1900 suppressions de postes.
Je précise que ces gens-là font du bénéf et qu'ils ont réclamé il y a deux ans au moment de la crise, à corps et à cri, des subventions publiques au regard de la situation.
Alors voilà, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, il faut distinguer les entreprises, les plans sociaux bon, qui sont pour des faillites, des mises en liquidation judiciaire et des, ce qu'on appelle les plans de licenciement boursiers. C'est-à-dire que certaines entreprises vont entrer en bourse et elles prévoient des plans de licenciement auparavant. Donc là, il y a une suspicion claire
celles-là vont rendre l'argent public à l'État.
Alors voilà, donc en fait, mais c'est toute la question. Alors je vais juste finir la liste et puis ensuite on passera à la question, c'est que peut faire l'État aujourd'hui. Donc comme je disais, l'automobile, donc PSA, c'est la principale entreprise qui va fermer. Et puis donc c'est tous ces équipementiers, donc Newell, MBF Technologies, Prevent Glass, etc. L'énergie aussi, donc les raffineries, un fournisseur d'électricité. Les télécoms et l'informatique, donc Free par exemple, c'est l'impact de Free, pardon, qui joue à plein, donc SFR qui va faire 1 000 salariés, donc quand même dans les télécoms, 300 000 emplois directs et indirects en France sont.
300 000 emplois.
Mais là, ça s'explique par une concurrence très agressive.
Exactement, voilà, c'est ce que. Oui, mais enfin bon, ça aussi, c'est une espèce de bulle dans les télécoms qui dure depuis un moment. Technicolor qui a déposé son bilan d'assemblage de décodeurs TV. Et puis dans les médias et les services, alors il y a les Presalis, les NMPP, principal distributeur de journaux, donc ça fait un moment que ça traîne, les 800 salariés dans les messageries, dans la presse, suppression de postes pour le groupe Ersan Média, pour Champagne Ardenne Picardie, dans la sécurité, Néo-Sécurité, c'est 5000 salariés, qui a vu sa cessation de paiement validée, mais François Hollande s'était engagé à trouver une solution. La métallurgie avec monsieur Mittal qui a prolongé de 6 mois l'arrêt des hauts fourneaux de Florange. Ça représente 500 salariés quand même sur le carreau. Les transports, donc chez Air France, d'ici 2015 on parle de 5000 suppressions d'emplois, c'est terrible. Et aussi la grande distribution avec Carrefour, c'est le premier employeur privé de France avec 115 000 salariés et qui évoque au moins 3 000 suppressions de postes, Auchan, Leader Price, etc. Donc il y a du pain sur la planche. Alors voilà, la vraie question, c'est que peut faire
l'État, parce que bon, il y a les licenciements boursiers. Voilà. On pourrait penser que les entreprises qui ont pris de l'argent à l'État devraient le rendre puisqu'ils licencient. Est-ce que ça marche
alors,
comme ça?
Alors, il y a une décision. Alors justement, aucun gouvernement n'a jusqu'à maintenant voulu conditionner ces aides à une reprise de ces aides en cas de. Mais il y a une décision qui a fait enfin bondir de joie tout le monde syndical, c'est la cour d'appel qui est de Viveo. Hein, Viveo qui est en fait a porté l'affaire devant les tribunaux. Là, c'est intéressant, c'est un plan social. Donc c'est une action collective devant les tribunaux. On a demandé aux tribunaux, en dehors des prud'hommes, donc en dehors du cas individuel, de trancher sur le caractère fondé du plan social et du licenciement de l'ensemble des salariés au motif que l'entreprise était rentable économiquement et qu'elle faisait des profits. Et donc le tribunal a donné raison aux salariés. Mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que le droit n'était pas assez clair. Il y a une application stricte de droit. Le droit n'était pas assez clair ou ne donnait pas autorisation aux tribunaux pour juger, pour intervenir dans les plans sociaux et pour juger de la validité des licenciements sur collectif d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'en résumé, je résume, quand t'es salarié, que tu te fais virer pour un motif économique, tu peux aller au prud'homme et contester ton licenciement pour des motifs économiques. C'est-à-dire qu'en résumé, on t'a remplacé sur le poste pour poste, donc le licenciement ne se justifie pas, mais à titre individuel. Par contre, en cas de suppression collective de poste, rien, c'était le sens de l'arrêt de la Cour de cassation, rien ne justifie que tu puisses porter l'affaire devant les tribunaux ou que les tribunaux puissent prendre position.
D'accord.
Donc ça, il y avait peut-être une modification législative à envisager là-dessus. On ne sait pas si le gouvernement va s'engager sur cette voie. Mais toujours est-il que, malgré tout, d'autres groupes, d'autres victimes de plans sociaux ont d'autres entreprises ont déjà porté l'affaire devant les tribunaux, malgré l'arrêt de la Cour de cassation, et ils ont eu gain de cause. Et ça, donc ça c'est une, c'est-à-dire que les tribunaux n'ont pas tenu compte. Non, mais justement, les tribunaux n'ont pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation. D'accord. Ils en ont fait quart-tête. Donc, en l'occurrence, c'est Leader Price, par exemple, Conforama. Voilà. Donc ça peut être la solution, une des solutions les plus radicales pour bien distinguer les licenciements boursiers.
Il y a une autre solution après les législatives qui est très simple. C'est rétablir l'autorisation administrative de licenciement.
Le licenciement qui a été supprimé en 86, oui, c'est effectivement. Voilà.
C'est tout à fait c'est possible, bon. Non ?
Oui, tout à fait, sauf que. Oui,
alors, soit on fait une politique de gauche, soit on ne la fait pas.
Okay, oui, un contrôle administratif.
Tu as raison.
Oui, tout à fait. Alors bon, je ne sais pas.
Il y a peut-être deux autres solutions. Enfin, moi, je vois déjà la solution de renationaliser les entreprises privées, en tout cas en partie, c'est-à-dire que l'État rentre dans le capital et dans l'entreprise.
Alors voilà. Là, c'est intéressant parce que finalement, dans ce cas-là, que va faire le gouvernement ? Je lis alternative économique.
Ah bien.
Je sais pas parce que pour moi c'est le journal de la social-démocratie. Et donc que nous dit dans cet article de ce mois-ci alternative économique ? Il nous dit interdire licenciement c'est un peu compliqué. Je fais vite, mais je dis ça comme ça. Donc s'appuyant justement sur l'arrêt de la Cour de cassation, mais bon, les choses n'est pas encore fait. Alors c'est pas possible. Alors non, il faudrait anticiper. Alors l'autre stratégie serait de limiter le nombre de licenciements grâce aux accords compétitivité emploi. Donc en résumé, ça veut dire prolonger la possibilité de faire travailler moins des salariés. Donc c'est-à-dire de réduire leur temps de travail et puis leur faire former, faire en sorte qu'ils se forment le reste du temps. Donc c'est-à-dire la politique qu'a mis en place l'Allemagne et qu'a mis en place Nicolas Sarkozy, sachant que c'est pas toujours une stratégie super efficace non plus. Et ils disent c'est pas très efficace parce que en France on aurait un chantage à l'emploi si on avait ce type d'accord. C'est-à-dire on vous réduit votre salaire. C'est ça où on part. Et ça s'est déjà fait, où on vous passe d'office à 35 heures, et on aura une mise en concurrence de plusieurs sites dans un même groupe, c'est tout à fait possible. Donc c'est pas certain que ça marche. Et donc, leur dernière solution, c'est mieux anticiper. Alors mieux anticiper, on sait pas trop comment, hein. C'est-à-dire mieux que les salariés rentrent plus souvent dans les instances dirigeantes, en fait. Hein. Mais à mon sens, les patrons n'ont jamais voulu que ça se fasse. Et dernière solution que semble mettre en place le gouvernement en ce moment, c'est-à-dire de tenter de faire pression sur les banques pour retarder les échéances quand on a un crédit, un avoir. Voilà. Mais alors, ce qui est important dans tout ça, dans cet article-là, c'est qu'il y a une chose qui n'est pas évoquée et qui n'est jamais évoquée, c'est la possibilité pour l'État de effectivement de rentrer dans le capital dans certains cas, donc d'une nationalisation partielle pour avoir son mot à dire.
Déjà pour avoir un droit de veto éventuellement dans certaines circonstances
ou pour les grandes entreprises. Bon, ça évidemment il en est moins que jamais question.
Alors moi j'ai une autre solution, peut-être que on en a déjà parlé ici, mais c'est d'autres associations que nous, comme Copernic par exemple. C'est le principe de la coopérative. Effectivement, les entreprises, les salariés peuvent effectivement se mettre en coopérative pour reprendre l'outil de travail. Est-ce que ça,
Il y avait une solution intéressante. Alors, au niveau de l'ESCOP, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une solution intéressante qui a été abordée par François Hollande, c'est que d'obliger le tribunal de commerce, ou plutôt d'obliger l'entreprise qui fait faillite ou le propriétaire d'entreprise qui fait faillite à accepter un repreneur que lui imposerait un tribunal de commerce. Alors après, oui, la reprise, il faudrait bien sûr que tout soit fait pour permettre l'ASCOP. Le problème de l'ASCOP, c'est qu'en général, quand une entreprise est déficitaire, enfin qu'elle a déjà des crédits sur l'eau, en général, elle cherche un apport d'argent frais. Monsieur. Et donc, c'est pour ça quand le repreneur s'engage à apporter de l'argent frais, bon, et on sait comment ça se traduit, hein, c'est-à-dire la restructuration. Et donc, quand on veut faire des scopes, c'est vrai que dans ce cas-là, il faut effectivement le soutien à plein de l'État, comme on l'a pas vu, justement, pour l'entreprise maritime. Le soutien à plein de l'État pour effacer une partie de la dette. Parce que ça, c'est important, hein. Parce qu'on parle souvent de l'endettement des États, mais les endettements des entreprises, c'est un truc important.
Très important,
c'est ça qui plombe le truc. D'effacer une partie de la dette pour permettre aux entreprises, aux salariés de reprendre leur entreprise.
Dernière question, Christophe.
Oui, non, mais il y a l'histoire de la nationalisation qu'évidemment on ne veut pas entendre parler parce que c'est le principe, c'est des principes keynésiens, je crois, au niveau économique, hein, le fait de l'intervention de l'État, etc. Oui. Donc voilà, on est dans un monde ultra-libéral. Mais au-delà de ça, si tu veux, la question qui se pose, c'est qu'il y a une aberration. C'est que l'État, de toute façon, va devoir tôt ou tard agir. Parce que, enfin, on en revient au même problème. C'est la notion de protectionnisme ou pas dans un monde de libre-échange. Mmh. Il faudrait qu'on se pose tôt ou tard, parce qu'on paye les retraites des Chinois.
Oui, alors justement, il y a un point de vue que j'avais, que tu me fais penser, c'est qu'il y a aussi l'Europe. C'est que finalement, l'État ne peut pas secourir comme ça gratuitement les entreprises qui tombent au regard du droit européen, puisqu'en fait, ça veut dire qu'il fait du dumping, qui soutient.
Du dumping social,
voilà, qui est contre, enfin, ou du qui soutient son industrie, même pas du dumping social, mais qui soutient son industrie contre une industrie concurrente européenne.
Les Américains le font.
Oui. Mais écoutez, très bien. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces éclaircissements. En tout cas, cette émission se termine. Merci, messieurs, de l'avoir faite. Je remercie messieurs, dames de l'avoir écouté. Bisous aux filles et poignée de main aux garçons. Ciao.
Bonne soirée.